un ami, c'est un étudiant, c'est un intervenant. C'est avec de grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la session générale de cet après-midi de réflexion juive. Soyez tous les bienvenus et soyez bénis. Je m'appelle Lévi Nimoun, responsable de Raman Campus à Saclay, qui accueille les étudiants des grandes écoles, qui va depuis HEC jusqu'à Polytechnique, en passant par Centrale Supélec. Plusieurs étudiants aujourd'hui de ce plateau de Saclay sont ici. De notre bel travail, parmi de nombreuses activités, de nombreux cours que nous donnons, une histoire particulière remonte à chaque conversation. Puisque nous sommes dans une école de commerce, une des conversations est comment faire l'école HEC et en même temps pouvoir étudier. Comme souvent vous le savez, mais cette année, c'est la 50e année où le Rabbi a lancé la campagne des Téfilines. Mais en parallèle à ça, c'est aussi la 50e année du mouvement Lubavitch à Paris, Île-de-France. Il y a 50 ans, le Rav Azimov, accompagné de son épouse, viennent à Paris afin de pouvoir éclairer et illuminer Paris, Île-de-France. Quelques mois avant leur venue à Paris, Madame Azimov, qui étudie dans un séminaire Gateshead en Angleterre, demande à son rave, avant de quitter le séminaire, quelques petits conseils. Son rave lui dit, après avoir étudié dans ce séminaire, le jour où vous allez vous marier, j'ai une recommandation à vous faire, d'habiter dans un endroit de Torah. Car nous sommes tous comme une bouilloire, et une bouilloire doit être branchée à une prise assez proche, afin de pouvoir toujours bouillir. Donc, il faut tout le temps habiter à côté d'un endroit de Torah. Quelques semaines plus tard, comme la coutume chassidique le veut, le Rav Azimov et son épouse rentrent chez le Rabbi pour leur demander une bénédiction avant le mariage. Et le Rabbi s'intéresse particulièrement à cette année de séminaire que Madame Azimov a fait à Gateshead en Angleterre. Et le Rabbi lui demande, qu'avez-vous fait avant de quitter le séminaire? Et elle lui raconte cette conversation avec ce Rav qui lui dit que nous sommes comme une bouilloire où nous devons être branchés constamment afin de bouillir. Le Rabbi, d'un grand sourire, lui dit, mais vous savez, il existe une rallonge. Le but d'une rallonge est de pouvoir bouillir même à distance et de pouvoir amener justement ces salons de Torah, même dans des endroits où malheureusement, comme à l'époque Paris était, dans des endroits afin de pouvoir ramener la Torah même dans ces endroits. Et en réalité, c'est exactement aujourd'hui la question qu'on se pose. Comment pouvoir bouillir dans le chemin de la Torah tout en faisant des études, des hautes études, ou pouvoir travailler dans différentes start-up ou différentes entreprises? Et comment pouvoir réussir dans la vie de tous les jours? C'est sur cette interrogation que je souhaite introduire notre invité de marque aujourd'hui. Je voudrais le saluer particulièrement et le remercier chaleureusement d'être venu spécialement d'Eretz Israël. Il a atterri il y a à peine 2-3 heures pour pouvoir être avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer une personne qui nous a aidé à rentrer en contact avec M. Brivi, Ethan et Joy Galam, des anciens élèves du campus HEC, afin qu'ils nous ont aidé d'organiser cette conférence avec M. Bérébi. J'aimerais l'appeler ici pour qu'il puisse nous dire quelques mots. Monsieur Jérémy Bérébi, merci.
Bonjour à tous. Non, pas de micro, merci. Vous m'entendez bien au fond? C'est bon? Nickel. Je me présente en quelques mots. Même si ma bio circule un peu. Moi, je suis un enfant des écoles juives. J'ai étudié à Or Yosef dans le 19e pendant quasiment toute ma scolarité. Les trois dernières années de ma scolarité, je me suis trouvé par accident à Maïmonide, à l'école Maïmonide à Boulogne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1994, à une époque où Internet n'existait pas vraiment pour le grand public, j'ai découvert Internet. J'avais 16 ans. Et donc, j'ai fait partie des tout premiers connectés à Internet au monde. Je pars au monde après, évidemment, l'armée et les écoles qui étaient connectées un peu avant. Et donc, à 16 ans, je commence à me connecter sur Internet. Ça ne s'appelait même pas Internet encore, c'était un réseau privé qui s'appelait CompuServe, qui était le plus gros réseau mondial. Je me connecte, je deviens responsable de forum, de discussion. À l'époque, c'était en fait tout tourné autour de la discussion. Les connexions modem étaient très lentes, donc on téléchargeait des fichiers en plusieurs dizaines de minutes. Des images, il fallait aller manger et après on avait la Joconde qui pouvait apparaître sur son écran. Et on payait surtout l'équivalent de 80 francs de l'heure, donc ça fait je crois 14 euros, quelque chose comme ça, par heure de connexion. Et donc on était très peu connectés, mais on se connaît, mais en fait on échangeait beaucoup, puisqu'en fait on avait un logiciel qui allait télécharger nos messages sur Internet et les messages des forums de discussion, donc on parlait de différents sujets. On se déconnectait, on répondait à tous ces messages de manière longue et réfléchie, et après on se reconnectait pour aller renvoyer ces messages. Et donc je me suis mis à parler avec pas mal de gens qui sont aujourd'hui en fait tous les grands entrepreneurs de la première génération de l'Internet, faisaient partie de ces premiers cercles de personnes qui étaient connectées. Donc à 17 ans, on me demande d'écrire dans les journaux informatiques. Donc j'ai commencé à écrire dans les journaux, j'étais un des premiers à écrire sur le sujet d'Internet. À 18 ans, on me demande d'écrire un livre dont j'ai rendu la copie le vendredi juste avant mon bac. Et en fait, mon année de terminale était assez spéciale, puisqu'en fait, j'étais en train de réaliser mon rêve qui était de devenir journaliste informatique. Et parce que c'était vraiment mon rêve de jeune. On était en train de me proposer un poste. Et pour moi, en fait, je me retrouve en terminale complètement déstabilisé. Avec effectivement d'un côté mon entourage qui me parle de grandes écoles et de l'autre côté moi qui me retrouve face à des employeurs qui veulent me recruter et me donner le job de mon rêve avec des salaires d'adultes, on va dire, puisque j'étais encore un petit jeune de 18 ans. À ce moment-là, je parle à mes parents, je me rappelle, j'avais mes parents autour de la table. Et je leur dis, papa, maman, regardez, j'ai plein d'offres de tous les côtés, qu'est-ce que je fais? Mon père me dit, fais ce que tu veux. Ma mère me dit, regarde, tu es à la fin, tu vas passer ton bac, passe-le, et de toute façon, même si tu l'as pas, c'est pas grave. Et donc j'ai passé mon bac, mais en même temps que je passais mon bac, donc j'écrivais un livre et je gérais le site du Tour de France à côté. Ça, c'était, donc j'ai quitté l'école après 18 ans, donc pour moi, c'était une année sabbatique. C'était il y a donc 18 ans, quelque chose comme ça. Je suis toujours en année sabbatique, elle est assez étendue. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un choc culturel. J'ai eu un choc, puisqu'en fait, j'étais en école juive toute ma vie. Et je me retrouve donc dans le monde du travail. Et je me retrouve dans un environnement pas spécialement juif, pas juif du tout d'ailleurs. Et là, en fait, je ne sais pas pourquoi. Non, si, je sais pourquoi. En fait, une petite parenthèse. Quand j'étais en année de terminale, j'ai rencontré une personne, un monsieur qui s'appelle Jean Guetta, qui était un entrepreneur, qui a fondé Sahari, qui est aujourd'hui Sage en France. Et ce monsieur Jean Guetta était quelqu'un, en fait, qui étudiait, qui était un Shomer Mitzvot et un homme d'affaires. Et moi, en fait, cette image-là du Shomer Mitzvot homme d'affaires, c'était un petit choc. Je ne savais pas que ça existait. Parce que pour moi, en fait, il y avait les rabbins d'un côté, qui étaient les religieux, même si nous on était Shomer Shabbat, on mangeait kasher, etc. Mais il y avait les rabbins qui étaient les garants du judaïsme et de l'enseignement, de nous faire nos petites drachas de Parashat HaShavua. Et de l'autre côté, il y avait les hommes d'affaires. Et là, en fait, je découvre une personne très discrète et très efficace qui avait fait Centrale et qui me dit Jérémy, tu sais, il n'y a absolument aucun problème. À la fois, un, abandonner tes études, ce que j'ai fait, puisqu'en fait, si tu vois, la plupart des grands entrepreneurs du monde de la high-tech sont des gens qui ont abandonné leurs études assez tôt. Et deux, il n'y a absolument aucun problème pour vivre ton judaïsme dans cet environnement-là. Et en fait, je suis parti en rendez-vous avec lui, où il était en kippa, commencer à faire des rendez-vous d'affaires avec des personnalités, avec d'autres entrepreneurs. Manière la plus simple possible. Et donc, en fait, ce petit déclic-là m'a montré la voie pour qu'en fait, quand j'avais donc 18 ans, quelques mois après cette rencontre, je passe des détails parce qu'il y a eu plein de détails intéressants, je me retrouve donc dans le monde du travail complètement décomplexé de mon judaïsme. C'est-à-dire, vaut mieux allumer le micro. Donc, complètement décomplexé du judaïsme. M'entendez mieux là? Il marche? Ouais. Donc, en fait, finalement, j'arrive au bureau. Donc, j'arrive au bureau, c'était les bureaux du groupe Ziff Davis. Ziff Davis, c'était le plus grand groupe de presse informatique au monde à l'époque. J'étais le plus jeune employé. On m'a accueilli avec un biberon sur la table ce jour-là. Et j'arrive, et donc le premier jour, j'arrive, bah, il faut aller manger. Et moi, je savais qu'à côté du bureau, il y avait un restaurant cachère. Et donc, je vais dire à l'ensemble de mes collègues qui étaient au cours du bureau, hey, les amis, venez, je mange cachère, qui veut venir avec moi? À tout le monde qui dit, ah, j'ai jamais mangé cachère, ça ressemble à quoi? Je fais, bah, venez, vous allez voir, c'est un peu pareil, que tout le monde va être déçu. Et donc, on a été au restaurant d'à côté, on a été manger cachère. Donc ça s'est fait une fois, ça s'est fait une autre fois ils me disaient non, Jérémy, là j'ai envie de manger autre chose, etc. Donc des fois j'allais, en général j'allais soit tout seul, soit avec des collègues, soit les collègues allaient entre eux sans moi. D'accord? Ça s'est passé comme ça, puisque le restaurant cachère faisait partie finalement maintenant des restaurants qu'il y avait à côté, comme il y avait le kebab turc et il y avait le resto cachère. Et ça en fait, le fait d'être arrivé dans ce monde professionnel de manière complètement décomplexée, avec un énorme sourire et avec une énorme fierté d'être juif, a fait que pendant toute la durée de ma vie, finalement, j'ai été considéré comme le juif heureux qui shomer mitzvot, qui étudie, à qui on va même se confesser, ou je sais pas, avec qui on va pouvoir se confier, disons, c'est plutôt le meilleur mot, à qui on va pouvoir se confier quand on a un problème que les gens, enfin, que la société, dont la société ne parle plus aujourd'hui. J'ai dû à gérer des cas d'entrepreneurs qui dépriment. Vous êtes un entrepreneur qui déprime aujourd'hui, vous ne le dites pas. Parce qu'un entrepreneur qui déprime, ça veut dire que sa société va mal, ça veut dire des trucs, et donc vous n'allez pas le dire. Au contraire, vis-à-vis de l'extérieur, vous devez faire le beau. Et moi, en fait, j'étais le psy un peu de service parce qu'ils disaient, toi, tu es le religieux, tu vas comprendre qu'on a autre chose que le monde matériel, on a aussi quelque chose qui est dans le cœur. Donc il y a eu plein d'exemples comme ça. Et finalement, je vais passer les exemples. J'ai donné pas mal de conférences où j'explique, où je donne pas mal de ces exemples, mais je vais vous expliquer en quoi finalement la question d'aujourd'hui c'était réussir à joindre vie professionnelle et vie juive. D'accord? C'est ça la question. Alors la question est fausse. Réussir à joindre vie professionnelle et vie juive est une question 100% fausse. La vie juive inclut tout. Les composantes, c'est-à-dire inclut la vie professionnelle, inclut la vie à la synagogue, inclut la vie de couple, etc., etc. Quand on pose la raison de dire comment j'arrive à joindre deux choses, c'est-à-dire que ces deux choses sont différentes. Mais en fait, non, la vie professionnelle, quand elle est vue avec un regard juif, la vie professionnelle est une vie dans laquelle on doit s'épanouir, on doit s'épanouir et dans laquelle on doit faire vivre notre judaïsme. Donc là, maintenant, je vais vous parler de ce sujet-là. Parce que je pense que c'est le point important et qui est le chidouche, comme on dit, la nouveauté qu'on peut avoir quand finalement on passe notre temps principalement à effectivement à mettre ses tefillin, à aller être shomer Shabbat, à aller un peu à la synagogue, à allumer ses bougies de Hanouka, etc. En pensant que c'est ça le judaïsme, mais au final, vous allez voir que le judaïsme effectivement va beaucoup plus loin que ça. Comme on voit dans l'ensemble de Chazal, dans l'ensemble de l'enseignement des sages. Il y a deux types de lois. Il y a des lois qui sont ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom, donc des lois qui sont en relation entre nous et Dieu, d'accord? Et donc dedans, on va mettre la Kashrout, Kippour, Shabbat, etc., les fêtes, Hanouka. Et de l'autre côté, on a d'autres types de lois qui sont les lois qu'on appelle Ben Adam Lachavero, les lois avec son prochain. Alors on pourrait se dire, oui, c'est pour nous faire plaisir qu'on nous a mis cela, mais. Le Rambam dans l'Ilkhot Teshuva précise particulièrement qu'à Kippour, on demande pardon à Kippour, on demande pardon pour les lois de Ben Adam Lamakom, mais pour les lois de Ben Adam Achavero, on ne peut pas demander pardon de cette manière-là. D'accord? Si on a fait du mal à quelqu'un, on doit résoudre ce mal. Dans l'ensemble des lois juives, on se rend compte que les lois entre personnes, les lois de relations entre hommes, juifs et non-juifs, d'ailleurs, d'accord, ça c'est beaucoup plus large que uniquement la communauté juive, sont complètement légiférés au sein de la Torah. Et donc la relation avec son prochain, c'est quoi? C'est pas uniquement tu n'as pas le droit de le voler, mais c'est tous les petits détails que je peux avoir dans ma relation avec les gens qui sont proches de moi. D'accord? Le petit détail, c'est moi je suis patron d'une société, je dois payer mon employé, je peux me dire. Quelle différence si je le paye le 30 du mois, le 1er, le 2, le 3 ou le 4 ou le 5? D'accord? Je vais me dire, pas beaucoup de différence, pas très grave, tout va bien, etc. J'ai rien fait de mal, comme le font la plupart des patrons. Eh ben non, la loi de la Torah oblige de payer son salarié à temps avant le dernier jour du mois, avant le tomber de la nuit, avant le lendemain matin, je ne rentre pas dans les détails. Le payer son salarié, donc c'est quelque chose de légiféré dans la Torah, c'est un passouk de la Torah qui est mélangé à l'ensemble des autres lois de la Torah. Payer ses fournisseurs, la même chose. Aujourd'hui, on a la grande manie, et je lis encore des articles ce matin, sur le fait que les entreprises ont pris l'habitude de payer leurs fournisseurs en retard. D'accord ? Donc moi, j'ai étudié ce sujet-là de payer ses fournisseurs en retard vu par la Torah. Ça s'appelle du vol. C'est-à-dire que si on a reçu une prestation et on doit la payer après un certain moment, et après ce certain moment, on n'a pas encore, on n'a pas payé, on continue à profiter de sa prestation, à ce moment-là, on est considéré comme un voleur. Et en fait, tous ces sujets-là, d'accord, il y en a beaucoup, on va en traiter de pas mal très très rapidement, sont traités via des centaines de pages dans le Talmud. D'accord, vous avez dans le Talmud, vous avez trois traités, Baba Metzia, Baba Kama, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, qui sont trois traités, trois gros traités du Talmud, les plus gros d'ailleurs, et qui traitent uniquement des lois vis-à-vis de son prochain. Et comme j'ai expliqué, je précise à chaque fois juif et non-juif, mais je ne vais plus le dire plus tard, parce qu'il faut comprendre que toutes ces lois-là concernent l'ensemble de la société. La halakha derrière, le Shulchan Aruch, mais nous on est habitué à lire Shulchan Aruch, à aller lire des petites halakhot effectivement de Shabbat et des petites halakhot de à quelle heure je dois me lever le matin pour faire ma prière, à quelle heure je vais faire mon Netilat Yadayim, etc. Mais le Shulchan Aruch est divisé en quatre parties. Une des parties s'appelle Choshen Mishpat et ne parle que de lois monétaires, que de lois professionnelles, que de lois de commerce. Alors quand je dis professionnel, ce n'est pas uniquement dans le monde du travail, mais c'est toute relation qu'on va avoir, toute relation monétaire ou toute relation qui peut causer des dommages à autrui entre deux personnes. Donc quand vous allez chez l'épicier le matin, vous pouvez enfreindre une loi de la Torah en fonction de certains paramètres. Quand vous allez acheter un objet au supermarché, vous pouvez enfreindre quelque chose. Ou si vous êtes vendeur, encore plus. Donc toutes ces choses-là font partie du traité Choshen Mishpat, qui est un traité qui est complexe, d'accord, qui est complexe parce qu'il parle d'énormément, énormément, énormément de sujets, mais qui est effectivement est en train de nous montrer que de la même manière que l'on a en fait nos lois qui paraissent effectivement des lois des religieuses d'un côté, de l'autre côté, nous avons des lois qui vont légiférer à 100% notre vie professionnelle. Pourquoi c'est important que je vous dise ça? C'est que quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte que finalement on a des lois et des mitzvot, d'accord, qui concernent notre vie professionnelle, quand on est au travail, quand on est en train de faire une négociation avec un partenaire, quand on est en train de recruter une personne, quand on est en train d'aller en entretien d'embauche pour pouvoir se faire se recruter, on est en train potentiellement soit d'accomplir une mitzvah, soit d'accomplir une avera. Si on décide, par exemple, en allant en entretien d'embauche, de mentir sur ses diplômes, ou alors à Moshe Feinstein, par exemple, qui était le grand rabbin des États-Unis, préciser, par exemple, on lui demandait est-ce qu'on a le droit de tricher aux examens ? Ah ! Est-ce qu'on a le droit de tricher aux examens ? Rav Moshe Feinstein considérait ça, le psaque de Rav Moshe Feinstein, c'est que c'est du vol. Parce qu'effectivement, si grâce à ces examens, vous obtenez un diplôme, vous trompez votre employeur, et cet employeur-là va vous recruter donc sur des fausses informations. D'accord ? Donc, à n'importe quel moment de notre vie, on se retrouve à pouvoir faire choisir le bien ou choisir le mal. On va revenir sur cette notion tout à l'heure. Alors, il y a aujourd'hui en fait un grand concept dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'éthique dans le business. D'accord ? Vous allez voir toutes les entreprises qui vont parler d'éthique. Moi, je conseille je viens de finir de conseiller un grand groupe français, un des trois plus grands groupes français, que je ne citerai pas. Et une des personnes de ce groupe-là vient d'être mise responsable de l'engagement sociétal de l'entreprise. Donc, et dedans, en fait, alors elle doit déjà définir ce que c'est, l'engagement sociétal. Elle doit définir aussi, alors ça inclut en fait effectivement tous les sujets d'éthique, etc. Elle doit définir ce que c'est et elle doit définir effectivement, finalement, comment effectivement la société va pouvoir intervenir sur le monde et intervenir avec les gens. Elle part d'une feuille blanche. Elle ne sait pas par où partir, par où aller. L'éthique dans le monde des affaires est très, très difficile. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez la possibilité d'investir dans une mine au Brésil, dans lequel c'est une mine d'or, d'accord? Là-bas, dans cette mine d'or, vous allez pouvoir effectivement générer des grandes fortunes. Et tout autour de cette mine, il y a plein de gens qui crèvent la faim. Qui crèvent la faim réellement. Est-ce qu'il est éthique d'aller recruter tous ces gens-là et les payer 2 dollars par mois et leur permettre de manger? Ou alors, non, ce n'est pas éthique parce que 2 dollars, quand même, c'est exagéré. Oui. Ce genre de question-là doit être analysé avec un œil juif. Je ne vous donnerai pas la réponse. Elle est très dure, cette question. Elle est très dure. Cette loi doit être analysée avec un œil juif, effectivement. Donc, en fait, on peut se dire aujourd'hui, en fait, l'ensemble des entreprises sont tous en train de travailler sur ces sujets d'éthique dans le monde des affaires, mais au final, elles partent de rien. Alors que nous avons une documentation absolument gigantesque sur, effectivement, l'ensemble de ces sujets. Mais ce ne sont pas juste des règles d'éthique, ce ne sont pas des midot tovot, comme on dit, ce ne sont pas des. Comment on dirait midot tovot? Quelqu'un peut m'aider? Des bons comportements, d'accord? Ce sont des lois font partie des lois de la Torah. C'est-à-dire que si on les enfreint, si on ne paye pas son salarié à temps, on enfreint une loi de la Torah. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, si on voit la Torah, le don des 10 commandements, a été donné dans la Torah, dans la paracha Yitro. D'accord? Vous avez la paracha Yitro qui est dans le Chumash Shemot, où Moshe va aller monter au Har Sinaï et va redescendre avec les 10 commandements. Enfin, il va redescendre avec. Enfin, les 10 commandements sont donnés, le Sissivan, et après va redescendre avec l'ensemble de la Torah. La paracha Yitro, donc, va citer les 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, Dieu est un, etc. Et après, immédiatement après la paracha Yitro, on ne va pas parler de kashrout, on ne va pas parler de tefillin, on ne va pas parler de plein de choses. On va parler de comment respecter son esclave. À l'époque, c'était courant, donc tout le monde avait un esclave. Comment gérer les dommages matériels entre les personnes? Comment gérer effectivement le paiement de ses salariés, la responsabilité des gardiens. Si je te remets quelque chose et tu t'en occupes mal, qui est responsable s'il se fait voler, l'interdiction du prêt à intérêt, etc., etc. Donc vous imaginez en fait Moïse qui arrive, donc vous avez Rami Sembaum, comme ça je pense que c'était le look, il arrive, descend du mont Sinaï, à parler à Dieu et commence à parler devant le peuple d'Israël. Allez, je vais vous expliquer le grand secret de Dieu. C'est, attention, alors si ta bâche a encorné celui-là, alors tu dois payer tant, tant et tant et tant. Mais si effectivement tu as creusé un puits et quelqu'un est tombé dedans, tu es responsable de lui réparer sa jambe, etc., etc. Vous imaginez, enfin, finalement, moi, la vision du judaïsme que j'avais pendant longtemps, c'était absolument pas ça. C'était effectivement, on vit un judaïsme. On se rapproche de Dieu, on va prier en permanence, on va dire qu'on a la émouna, le bitachon, la foi, la confiance en Dieu, etc. Mais au final, ce lien avec les lois de tous les jours, finalement, je lisais un peu vite, moi, dans la paracha. Je lisais un peu vite. Et c'est au final, c'est en étudiant, que je me suis rendu compte à quel point ces lois étaient complexes et à quel point ces lois étaient importantes. Donc, comme je vous l'ai dit, la paracha Mishpatim suit la paracha Yitro. C'est à la fin de la paracha de Mishpatim qu'on parle des fêtes juives. D'accord? Pas au début. Il y a eu plein, plein de lois qui ont été citées avant. Donc en fait, le point important, c'est quoi? C'est qu'en fait, on peut se dire, on a été des juifs de la synagogue. Juifs de la synagogue, c'est-à-dire, on arrive à la synagogue, on met notre kippa, on va prier Dieu, on va mettre notre tefillin, on va avoir notre tissidour, et effectivement, on va accomplir un rituel, d'accord, qui est extrêmement important. Ce rituel est extrêmement important et je vais vous l'expliquer pourquoi tout de suite. Et en sortant de la synagogue, qu'est-ce qu'on fait en général? On prend la kippa, on la met dans la poche. C'est-à-dire, j'ai fini mon service. Dieu, j'ai fait mon job, je suis venu te parler, maintenant je me remets au boulot. Il y a autre chose à faire à l'extérieur. Mais en fait, je vais vous donner une autre théorie sur à quoi sert la synagogue. À quoi sert la synagogue? La synagogue et la prière que l'on fait 3 fois par jour sert à se synchroniser avec Dieu. C'est-à-dire que quand on rentre dans la synagogue et qu'on va aller demander à Dieu des choses, on est en train de prendre conscience finalement que c'est Dieu qui nous donne cela. que c'est Dieu qui nous fait réussir dans telle ou telle affaire. C'est Dieu qui nous fait réussir dans tel ou tel projet. C'est Dieu qui nous donne la santé, etc., etc. On va aller se synchroniser avec ces données-là. On se dit, Dieu, je veux que tu nous donnes ça. Mais quand on sort de la synagogue, le but, ce n'est pas se dire, j'ai fait le service. Si on pense comme ça, c'est exactement comme ça que les idolâtres servaient leurs idoles. Je ne sais pas si vous savez comment on sert les idoles. On amène un petit plateau de tomates concombres, on amène ça à sa petite idole, je sais pas quoi, et on pense qu'on va avoir en retour un bienfait. Donc à l'époque, on allait vers l'idole qui allait nous permettre d'avoir de la pluie, l'idole qui allait pouvoir nous faire gagner des guerres, etc., etc. Pourquoi ? On disait, je vais servir l'idole, je vais rendre heureuse l'idole, et l'idole va me donner en retour quelque chose. Cette notion-là est fausse pour Dieu. Dieu n'a absolument pas besoin de concombre tomate. D'accord ? Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu n'en a pas besoin. Vous voyez dans le concept de besoin. Dieu manque de rien. L'unité de Dieu, ce qu'on dit dans le schéma tous les jours, Dieu est un, cette chose-là veut dire que Dieu ne manque absolument de rien. Il y a même des questions, il y a des livres entiers sur « Alors pourquoi Dieu a créé le monde ?» Pourquoi on va créer le monde si Dieu a tout? Et en fait, la réponse la plus simple, il y aura sans doute des réponses mystiques un peu différentes, c'est qu'en fait, Dieu a créé avec ce monde-là, a créé un moyen de donner. C'est par pure bonté qu'il a créé ce monde. Parce qu'avec ça, c'est comme pourquoi on a des enfants? Pourquoi on va avoir des enfants? D'accord? On est marié, on pourrait se retrouver avec notre femme tout le temps, aller à Disneyland, aller un peu à Bahamas, aller un peu ci, etc. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des enfants? Alors certains vont dire, oui, pour perpétuer mon nom. Oh, aujourd'hui, les noms, ça ne vaut pas grand-chose. Vous savez pourquoi on a besoin d'avoir des enfants? Parce qu'on a besoin d'avoir des gens à qui donner. Même si on manque de rien, on a besoin de donner. Et donc, de cette manière, Dieu donne. Dieu donne en permanence, nous donne la respiration. Quand, je ne sais pas si vous savez tous, mais quand on sort des toilettes, on doit remercier Dieu. Il y a une prière en sortant des toilettes. Le matin, quand on se lève, on remercie Dieu, on fait des brachot particulièrement pour remercier Dieu de s'être levé. D'accord ? Là, une liste de brachot comme ça, c'est même le fait de s'être levé du lit, de s'être relevé, zokef kefoufim. D'accord ? Toutes ces choses-là, on dit merci, merci, merci. Mais au final, on n'est pas en train de faire plaisir à Dieu en faisant ce service. Quand je mets mes tefillines, je ne suis pas en train de faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de me synchroniser avec Dieu. Je suis en train de me dire, Dieu contrôle absolument tout dans ce monde, absolument tout. Moi, maintenant, je dois accomplir ma mission sur cette terre. Ma mission des tefillines, c'est avec ma tête et avec mon bras, avec mon esprit et avec mes actions. Donc, quand on est à la synagogue et qu'on se dit ça, on a une tefillah qui est complètement différente. On a une prière qui est complètement différente. Alors, on doit toujours effectivement demander à Dieu, « Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. » Il faut toujours avoir des bonnes pensées. Pourquoi « donne-moi ça, donne pas une... » Quand on demande une fortune pour effectivement faire n'importe quoi avec, effectivement, ce n'est pas la meilleure tefillah qui soit. Mais d'un autre côté, ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, c'est se dire, « C'est bon, je me rappelle 3 fois par jour que Dieu est là avec moi. Maintenant, je ressors à l'extérieur, je sors de la synagogue, je vais au travail, je dis bonjour à mes collègues, et je pense, à partir de ce moment-là, vouloir faire du Kiddush Hashem. À partir du moment où j'arrive, où je mets le pied en dehors de la synagogue, je ne dis pas, allez, je vais trouver une petite magouille sympa. D'accord ? Malheureusement, ça fait rire parce que ça peut être vrai pour certains. D'accord ? Non, 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 non. Je vais faire, mais comment je vais faire pour montrer à quel point les valeurs juives, dont on a un peu parlé tout à l'heure d'identité, les lois juives, peuvent resplendir sur le monde. D'accord ? Et ça, c'est ça qui est important. Donc, quand vous vous rendez compte de ça, finalement, la synagogue, c'est un lieu, un des lieux où on peut exprimer son judaïsme. Mais la rue, son travail, sa maison, n'importe quel moment, à n'importe quel moment, comme j'ai expliqué, on sort des toilettes, on va exprimer quelque chose. Tout est là pour exprimer son judaïsme. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que la question de réussir à joindre vie professionnelle et vie juive n'est pas vraie. Puisqu'en fait, la vie professionnelle, c'est juste un lieu dans lequel on va exprimer notre vie juive, dans lequel on va aller donner finalement toutes ces choses-là. Il faut savoir que, donc j'ai expliqué en fait finalement le lien entre la paracha Mishpatim et la paracha Titro, donc les 10 commandements immédiatement on rentre dans ces lois-là, Mais il y a aussi autre chose. Le temple, quand on pense au Beth Amikdash, à quoi on pense? Quand on pense au Beth Amikdash, d'accord, au temple, on pense au Cohen, qui était là à Kippour, pour aller demander le pardon au peuple juif. On pense au Kohanim qui était en train de faire des korbanot, des sacrifices. On pense effectivement à un certain rituel qui avait lieu là-bas, au Beth Amikdash. Ce qu'on oublie, c'est qu'au Beth Amikdash, dans le coin du Beth Amikdash, il y avait le grand Sanhédrin. Il y avait les plus grands sages d'Israël, je crois que c'est 71, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 71. 71 juges, qui étaient les plus grands sages d'Israël, qui étaient là pour aller nommer tous les dayanim qu'il allait avoir en Israël, tous les juges, et qui étaient là pour aller régler les problèmes les plus graves, les problèmes les plus difficiles à traiter par ces juges-là. Ils étaient là aussi pour permettre certaines guerres, etc., etc., mais c'est pas le sujet. Donc en fait, nous on imagine le Beth Amikdash en pareil, un rituel, quelque chose, voilà, on est en train d'amener des petits cadeaux à Hachem, des petits sacrifices, tiens une petite vache, tiens un petit agneau, tiens un petit oiseau, d'accord? On est en train d'imaginer les choses comme ça, alors qu'au final, au siège même de ce Beth Amikdash, à côté de ça, qui est effectivement très important, tout ce rituel-là, comme de la même manière, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en train de dénigrer, évidemment, le Tfilin, le Shabbat, les Kikipur, Hanouka, etc., etc. Mais à côté de ça, il y a la justice. La justice, le fait de devoir être juste dans le monde, de devoir faire resplendir une justice depuis le centre du monde qui est Jérusalem. Quand on se dit ça aussi, de la même manière que je vous l'ai expliqué avec la paracha de Mishpatim, on est en train de se dire que finalement le judaïsme, c'est effectivement pas ce qu'on pouvait pressentir, ressentir depuis longtemps, mais finalement c'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ça paraît presque même peu matérialiste comme ça. C'est un peu matériel tout ça. Quoi, on va commencer à s'occuper de liens entre personnes. Un jour, avec ma famille, on avait loué une maison dans le nord d'Israël. Et on a eu à un moment un petit conflit avec le propriétaire. Conflit mais amical. On lisait juste le contrat qu'on avait signé différemment. Et la personne en face n'était pas religieuse. Et je lui ai dit, regarde, viens, on va voir le rav de la ville, du Moshav, c'était un Moshav. Viens, on va voir le rav du Moshe, on va le laisser de lui trancher. Je fais, ah mais non, je vais pas déranger mon rabbin comme pour ça. Je vais pas déranger mon rav pour ça. Lui, il est là en train de s'occuper, il est à la synagogue, il est en train d'étudier des livres, etc. Mais je vais pas le déranger sur un problème de contrat. Si on voit en fait l'histoire juive, et on voit les lettres retrouvées dans la Gniza du Caire. Alors je sais pas si vous savez, une Gniza, c'est l'endroit où on va mettre tous les divrei Torah, les livres de Torah, qu'on ne peut plus utiliser, en général. Aujourd'hui, malheureusement, on en a tellement qu'on jette plus que ça. Et comme les livres de Torah, on n'a pas le droit de les jeter, ni de les brûler. Dans ce cas-là, on les prend et on les enterre dans le sol. D'accord? Il a été retrouvé, il y a longtemps, la Gniza du Caire. La Gniza du Caire, c'est la plus grande Gniza au monde. L'ensemble des documents de la Gniza, d'ailleurs, ont même été scannés. Il y a même un service qui vous permet d'y accéder, si ça vous intéresse de faire les archéologues. Et effectivement, donc on voit dans la Gniza du Caire, on va aller lire un peu les échanges qu'avaient les gens, à part les livres de Torah, d'accord? Il y a aussi des échanges qu'avaient des personnes avec leur rabbin. Alors évidemment, vous avez des problèmes de Ktouba, il y a un divorce, je m'étais engagé à payer ça, mais je ne peux pas les payer, comment ça marche, etc. Vous avez des problèmes de le lait et la viande, j'ai fait ci dans ma casserole, etc. Vous avez plein de choses qui sont, effectivement, qui touchent le judaïsme tel qu'on le connaît, d'accord? Mais vous avez énormément de documents qui traitent de relations entre les commerçants et les sages d'Israël. Les commerçants sont en train de demander aux sages d'Israël. Par exemple, il y en a un qui dit, voilà, j'ai envoyé par monsieur X, par monsieur Yaakov, j'ai envoyé ma cargaison sur son bateau a coulé, qui est responsable? Qui va me rembourser? Est-ce qu'il doit me rembourser? Est-ce que c'est lui? Il me dit qu'il doit pas me rembourser parce qu'il avait mis un super capitaine et c'est pas de sa faute. Moi, je dis que non, parce qu'il a suivi une trajectoire qui n'était pas la trajectoire normale et donc il a coulé à cet endroit. Comment ça marche? Et là, vous avez des retours des rabbins avec des grandes responsas, qui sont disponibles aujourd'hui, qu'on utilise encore aujourd'hui pour aller fixer des lois, pour aller effectivement répondre à ces questions. Des questions terre à terre. Mais le judaïsme, c'était ça, c'était d'aller dire sur n'importe quel sujet de la vie, que ce soit un sujet économique ou même un sujet politique, on ne va pas aller demander à, je vais pas dire de nom, ça va faire du lachonara, à un animateur télé, à un journaliste, ce qu'il pense de tel ou tel politicien, mais on va aller s'asseoir avec des rabbanim et on va aller réfléchir aux conséquences de telle et telle et telle personne. D'accord ? Quand à un moment, j'ai fait passer un message que vous avez vu passer, que Rav Kanievski avait pas demandé, mais en tout cas avait dit que si effectivement on votait, il fallait voter pour Emmanuel Macron au premier tour. D'accord ? On ne va pas rentrer du tout pourquoi. D'accord ? Quand elle demandait ça, je me suis pris des insultes. Alors, il y a les insultes des gens d'extrême droite en disant « Ah, déjà, vous contrôlez le monde, en plus, vous nous amenez Macron. » Mais il y a eu l'insulte de juifs qui me disaient « Mais de quoi se mêlent les rabbins ? De quoi se mêlent-ils ? » Et en fait, moi, personnellement, je n'avais même pas eu la question de, effectivement, de quoi se mêlent-ils. Parce que pour moi, c'est quand j'ai un problème de business, quand j'ai quitté Xavier Niel il y a 2 ans, c'est une décision que j'ai prise avec mon Rav. Quand j'ai pris l'ensemble des décisions que j'ai prises dans ma vie professionnelle, les investissements, des non-investissements, etc., ce sont des discussions que j'ai faites avec mes rabbanim. Donc, quand j'arrive effectivement de l'extérieur, quand on est de l'extérieur, et quand on a une vision de culte que le judaïsme se fait qu'à la synagogue, effectivement, on a cette réaction. Mais de quoi se mêle le rabbin ? Mais il sait quoi finalement le rabbin ? En quoi il a un avis sur ça ? D'où il connaît Bichlal ? Qui sait Bichlal ? Et ça, effectivement, c'est la grande erreur. C'est la grande erreur. Non, alors ça ne veut pas dire qu'effectivement, des rabbins ne vont pas pouvoir, effectivement, faire, entre guillemets, des erreurs. D'accord ? Il peut y avoir des décisions qui ont été prises, qui ont pu avoir une mauvaise conséquence. Mais elles ont été prises avec ce qu'on appelle un Da'at Torah. C'est-à-dire avec une base de connaissances qui a été purement tirée du judaïsme, de l'ensemble des données que l'on a du judaïsme. C'est-à-dire le Talmud, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, tous les sages qui ont rempli l'ensemble de notre histoire juive. Et ça, en fait, il y a un point important. Je ne sais pas si vous savez, en Israël, il y a un fléau, un grand fléau chez les juifs français. Les juifs français, beaucoup de juifs français arrivent en Israël et vont aller travailler dans des sociétés complètement illégales, d'accord ? Des sociétés de forex, des sociétés appelées options binaires, des casinos en ligne, etc., etc. Quand on parle à ces gens-là, ils me disent « Ouais, mais j'ai besoin d'une parnassa, et je donne à la synagogue. Et maintenant, au moins, je suis en Israël. » D'accord ? Pour ceux qui répondent. Il y en a certains qui ne répondent pas. Il y en a certains qui disent « J'ai un accord d'un rabbin, mais on a cherché. » J'ai appelé Rav Nissenbaum il y a quelques semaines, parce que j'ai appelé plein de rabbins de tout courant, pour essayer de trouver un rabbin qui permettait ce genre de choses. Et tout le monde me dit, mais ce rabbin n'existe pas. D'accord ? Et en fait, ce fléau-là est dû parce qu'on a complètement oublié que notre judaïsme... Et donc, moi, ce qui est important, c'est que ces gens-là ont certaines fois des tzitzit. Ces gens-là vont à la synagogue et vont faire très attention à ne pas oublier de mettre leur tefilin. Attention. Mais ils ont complètement oublié une grosse partie, le gros quart de la loi juive, qui nous dit qu'on est censé être les gens les plus droits au monde. On est censé être les gens les plus droits. On est censé être les gens qui en permanence vérifions ce que nous faisons pour ne pas voler le moindre centime. Et là, non. On a à côté le business is business. On pense que le business est sans foi ni loi. Et là, on a fait notre grande erreur et on plonge dans ces bêtises. Si on prend notre ancêtre Yaakov, notre ancêtre Yaakov, c'est lui qu'on appelle Israël, d'accord ? C'est lui que Dieu a appelé Israël. Yaakov, si on lit l'histoire de Yaakov, c'est une histoire un peu simple, d'accord ? Donc, effectivement, il a la chance d'être le petit-fils d'Abraham, le fils d'Israac. Et on dit que Yaakov était Yoshev Oalim, Ishtam Yoshev Oalim. Il était un homme simple, pas simplé, hein, simple, et qui résidait dans la tente. Donc, en fait, c'était quelqu'un qui n'allait pas se balader dans la rue, enfin, dans les forêts, etc., faire de la chasse ou plein de choses. C'était quelqu'un qui était là et qui réfléchissait. On ne va pas dire qu'il étudiait la Torah parce que la Torah n'était pas là, mais en tout cas, qui était un penseur, disons. On va essayer de traduire ça comme ça. Et Yaakov, effectivement, se retrouve dans une situation où il va devoir prendre par ruse, à la demande de sa mère, les brachot de son frère Esav. D'accord? Donc son frère Esav était lui un rachat, donc quelqu'un qui faisait en permanence beaucoup de mauvaises choses, de l'adultère, du meurtre, etc., etc. Et effectivement, à un moment, Yitzhak veut donner des brachot à Esav, et Yaakov va prendre, va se faire passer pour Esav, va prendre ses brachot. On va pas mettre l'accent sur cet épisode-là, même s'il est très important. Il est très important, surtout que c'est la plus grande tromperie, je pense, de la Torah, d'accord ? Et on me dit que Yaakov, la mida de Yaakov, c'est la mida de Emet, d'accord, de vérité. Donc malgré le fait que ça soit la plus grande tromperie, c'est la mida de Emet. Bon, on passe cet épisode. À ce moment-là, Yaakov, Yitzhak et sa femme Rivka renvoient Yaakov et disent, voilà, tu dois aller te marier. Ne te marie pas avec les femmes d'ici, ce sont les Cananéennes, ce sont des idolâtres. Va te marier avec tes cousines, avec les gens de notre famille, la famille de Rivka, à l'extérieur. Et là, effectivement, Yaakov part. À ce moment-là, il se passe un événement. C'est que pendant la marche de Yaakov, très vite, il arrive à l'endroit de Jérusalem, d'accord, à l'endroit du mont du Temple, où il n'y avait absolument rien. Donc c'était le lieu où avait lieu la Kedat Yisraq. À ce moment-là, la nuit tombe plus vite, donc c'est ce que dit les psukim de la Torah. Et donc Yaakov s'allonge et fait un rêve, où effectivement, donc il voit effectivement le rêve de l'échelle de Jacob. Moi, je ne vais pas parler de ce rêve, je vais parler de ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que le lieu le plus saint, finalement, de notre vie juive, du judaïsme, qui est le lieu du Beth Amikdash, s'est rapproché de Jacob à un moment où il allait faire quoi ? Où il allait chercher une femme avec laquelle se marier. Et il allait rejoindre, il n'allait pas là, effectivement, à essayer d'aller inventer une nouvelle philosophie ou d'aller faire comme Abraham, d'aller ramener les gens à Dieu. Non, 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 il allait se marier et il allait se retrouver dans un environnement très obscur. Et là, Dieu lui ramène le temple vis-à-vis de lui. J'ai vu un très beau commentateur qui disait que cette preuve-là, que Dieu te ramène le Beth Amikdash à ce moment-là, est en train de te faire avancer, est en train de te dire que Yaakov, malgré ce que tu es en train de faire, qui n'a pas l'air du tout de faire quelque chose de juif, d'accord ? Tu as juste cherché une femme. Malgré ça, moi, je te rapproche le temple en me disant « Oui, oui, mais ça fait partie complètement du chemin que doit faire un juif. Tu dois aller maintenant chez Lavan. » Et tu dois aller chez Lavan accomplir ton judaïsme. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Lavan ? Lavan se retrouve à être l'un des plus grands malfrats et menteurs de l'histoire juive. On dit qu'il a changé le contrat qu'il avait avec Yaakov 1000 fois. Donc vous savez qu'il a donné, Yaakov devait se marier avec Rachel. Finalement, il lui a donné Léa. Après, il lui a redonné Rachel. Il lui a changé le contrat plein de fois. Et en fait, Yaakov, pendant toute cette durée-là de vie avec Yaakov, avec Lavan, je pense que c'est 22 ans, je crois, 20 ans, 22 ans. Pendant toute cette durée-là, Yaakov va être quelqu'un de droit et honnête, malgré le fait qu'il était entouré de gens crapuleux. Les enfants de Lavan voulaient le tuer, etc. En sortant de ça, en sortant de cette épreuve-là, c'est à ce moment-là que Dieu décide de l'appeler Israël. Yaakov est appelé Israël. En quoi c'est important, en fait, ce sujet-là ? C'est que finalement, nous, on s'appelle les enfants d'Israël après ces deux épisodes. L'épisode, effectivement, de Ruth et l'épisode de Ruth qui reste une vérité, on ne va pas rentrer là-dedans. Et l'épisode où, en fait, la seule chose que Yaakov avait à faire dans sa vie à ce moment-là, c'était de rester droit parmi les malfrats. C'était ça. Et on parlait tout à l'heure, Rav Nissen Baum parlait de l'identité juive et le fait que ce qui nous différencie, ce sont des lois, finalement. En fait, le fait de rester absolument ancré, profondément lié à des lois et à une droiture au milieu de l'ensemble des peuples, c'est ça qui fait Yaakov. Et on voit d'ailleurs que son fils Yosef a eu la même épreuve. Lui aussi a dû partir, a dû quitter ses parents pour une raison, parce qu'il a été vendu par ses frères. Mais en tout cas, il a été exilé en Égypte. Et de la même manière, en Égypte, Yosef a été appelé Yosef HaTzadik parce que là-bas, il a gardé une droiture permanente, effectivement une droiture aussi dans le sujet des mœurs. Je crois que je vais bientôt devoir arrêter, je ne sais pas où on est. Non, je continue? Très bien. Il y a. Donc, nous, en fait, on est les enfants d'Israël. Si on doit expliquer donc, qui est Israël, on reprend effectivement notre livre, on dit voilà, bah, Israël, c'était ça. L'histoire de Yaakov après n'est pas super intéressante. Il y a l'épisode où effectivement son fils est loin, Yosef, où Yaakov déprime et a du mal, se déconnecte de la Shekhinah à ce moment-là. Et il y a l'épisode où Yaakov s'installe en Égypte dans une terre à part. L'Eretz Goshen, il est dans une terre à part par rapport à l'ensemble du peuple. Mais au final, l'histoire de Yaakov, c'est ça. Donc tout le peuple juif descend de cet homme qui a été l'homme honnête. D'accord? À cette époque-là, comme j'ai expliqué, pas de cacheroute, pas de filine, pas de... Il y avait effectivement, on dit qu'effectivement, à cette époque-là, les avots déjà respectaient l'ensemble des fêtes. C'est quelque chose qui est à la surface de l'ensemble des psukim, mais il faut effectivement, ce n'est pas écrit méforage. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit finalement de Yaakov, c'est une honnêteté, une droiture et une simplicité. D'accord? Il est droit, point. On va pas discuter, on va pas essayer de tricher. On est droit, point. Quand on arrive là-haut, la Gemara nous dit, dans Shabbat Lamed Aleph, Amoud Aleph, Amar Rabba, Bechaa Shemachnissim Adam Ledin, Omrimlo. Rava dit, au moment où on fait rentrer l'homme au jugement céleste, donc après notre mort jusqu'à 120 ans, on nous pose une première question. Nasata venatata be'emuna. La première question qu'on nous pose, ce n'est pas est-ce que tu as bien mangé cachère? Ça va être, est-ce que tu as fait ton commerce avec droiture? C'est dingue. Pareil, comme je l'expliquais tout à l'heure, on disait Moshe Rabbeinu est descendu à Sinaï, il commence à parler de vaches et d'esclaves. Là, la Torah, on arrive là-haut, on pense s'être débarrassé de ses problèmes de business et d'argent. Et là, on arrive là-dedans, on dit, allez, est-ce que tu as effectivement fait du commerce avec Emouna. Le terme Emouna, il peut avoir deux significations. Ça peut être dit, soit as-tu bien géré ton commerce avec droiture. D'accord. Il y a écrit 10 minutes. Non, as-tu bien géré ton commerce avec droiture? Ou as-tu bien géré, on peut le lire d'une autre manière, as-tu bien géré ton commerce en ayant la foi qu'Hachem dirige tout dans ce monde, avec la foi en Dieu? Est-ce que tu as bien dirigé? Et en fait, ces deux sujets sont la même chose. Pourquoi est-ce qu'effectivement, certaines personnes se mettent à tricher, se mettent à voler dans le commerce, se mettent à mentir à son client quand il va avoir un compte, quand il va essayer de négocier un contrat? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'on a un manque de Emouna. On a un manque ou de Bitachon, on a un manque de confiance en Dieu. On se dit, non, non, mais c'est le fait que j'aille magouiller un peu qui va donner le résultat. C'est ça, en fait, que, finalement, c'est mon action. Donc, il faut que je force un peu. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. Le judaïsme, l'ensemble des textes du judaïsme montrent à quel point Dieu contrôle tout. Quand on lit le Birkat Amazon après avoir mangé un repas, on est en train de dire, c'est toi, Dieu, qui nous donne à manger, c'est toi qui nous donne notre table, etc., etc. Pareil, Dieu, vous pensez qu'il a besoin de merci, merci, merci? Non, 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 non. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin. Mais c'est pour nous rappeler à nous, quand on est en train de lire ça, moi quand je lis le Birkat Amazon, je me dis, ah ouais, c'est vrai, purée, je pensais que le contrat que j'ai eu ce matin, je pensais que c'était mon intelligence qui avait fait ça, ou que j'avais rencontré les bonnes personnes, etc. Mais non, non, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Et le fait de vouloir un peu dévier, c'est la plus grande preuve qu'on ne croit pas que Dieu dirige le monde. C'est ça la plus grande preuve. La deuxième question, même si c'est un peu hors sujet, enfin vraiment un peu, la deuxième question qu'on nous pose quand on arrive là-haut, c'est Kavata itim batora, la Torah. As-tu fixé des temps pour étudier la Torah? D'accord? On dirait, oh, c'est normal, c'est des rabbins qui parlent. Ils parlent de Torah tout le temps. D'accord? En fait, ces sujets sont très liés. C'est que finalement, on ne peut pas, en lisant Le Figaro, Le Monde et Facebook, on ne peut pas savoir ce qui est bien ou pas bien. On ne peut pas. On ne peut pas savoir ce qui est juste ou pas juste. Donc on a besoin dans notre vie de fixer des temps d'étude de la Torah. Fixer des temps d'étude, vous avez vu, on ne demande pas combien de temps as-tu étudié la Torah par semaine? On ne demande pas ça. Est-ce que tu as fixé des temps d'études? Finalement, quelqu'un qui va aller fixer sa demi-heure par jour, d'accord? Ou sa demi-heure par semaine pour démarrer, je ne sais pas. D'accord? Va fixer ça et va dire, mais pour rien au monde, je change ça. Pour rien au monde, je bouge 7 heures. À ce moment-là, effectivement, il peut répondre en disant, est-ce que tu as fixé des heures d'études? Ouais, j'ai fixé. Une demi-heure par semaine? Ok, t'as fixé. On passe à la question suivante. Je vais vous donner une anecdote personnelle, pas pour me vanter, mais c'est pour vous expliquer comment on doit gérer cette notion-là. Manuel Valls, ancien Premier ministre, futur je ne sais pas quoi, est arrivé en Israël, en visite en Israël, il y a un peu plus d'un an. Il est arrivé en Israël. Moi, en Israël, je suis l'ambassadeur de la French Tech. Alors, soit vous avez vu la French Tech avec les petits coqs et tout. Et moi, je suis l'ambassadeur, je suis le représentant de la French Tech en Israël, je suis très fier. Et donc, quand Manuel Valls est arrivé, il est arrivé un dimanche matin, l'ambassade m'appelle en me disant « Jérémy, Manuel Valls arrive à 10h, à 11h tu dois être prêt, tu dois faire le discours d'accueil. » Ah, à 11h tu dois être prêt, discours d'accueil. Moi, je fais « Ben non, je peux pas, j'étudie. » Ah, non, 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 mais Jérémy, Manuel Valls, il vient qu'une seule fois. Je fais « Non, non, mes heures d'études, c'est de 4h30 du matin, bon, c'est spécial, jusqu'à midi et demi, d'accord? Pendant ce temps-là, j'étudie. J'étudie. Alors ils me disent, non mais fais une exception, c'est Manuel Valls. Et là je leur réponds quelque chose qui m'est sorti du cœur. Je presque ça. Enfin, l'insistance m'énervait un peu. Et je leur dis, mais même si c'était Barack Obama qui arrivait et me demandait un entretien en tête à tête, je ne retirerais pas mon étude fixe. Parce que si je retire ça, j'ai tout perdu. J'ai donné de l'importance à quelque chose qui n'en a pas, qui n'en a pas réellement. Alors que la chose qui est importante, c'est j'ai fixé ces heures. Il faut savoir que cette réaction-là a fait faire tchouva à une personne de l'ambassade, une juive qui était là-bas. Son mari s'est mis à porter la kippa une semaine après. Et ils sont venus me voir en disant « Jérémy, on a fait tchouva parce que les gens dans l'ambassade ne pouvaient pas croire leurs oreilles que tu prennes cette décision. » C'est ce genre de choses assez simples, finalement. Le fait d'être strict, effectivement, avec ce qu'on nous demande, c'est ça que finalement qui fait resplendir, en fait, finalement, notre judaïsme autour de nous. Et pas uniquement chez les juifs. Chez les non-juifs aussi. J'avais un exemple, justement, je vous disais qu'il faut payer son salarié à temps. Il y a quelques années, je conseillais une société, et à un moment, on devait payer un salarié, c'était un salarié de l'entreprise. Et effectivement, on était le dernier jour du mois, et les papiers n'étaient pas signés par le bon patron, le chèque n'était pas signé, etc. Donc, en gros, ça allait prendre 2-3 jours de plus. Moi, je dis à mon interlocutrice, qui est chrétienne, avec une petite croix là, ici, je dis... La Torah, la Bible, non, je dis la Bible, demande à ce qu'on paye son salarié à temps. Donc, on va tout faire pour que ça soit le cas. A dit Monsieur Bérébi, vous ne vous rendez pas compte, il faut aller signer des trucs, il faut aller ça, etc. En plus, ils sont en conseil d'administration, etc. Je vais regarder. Moi, je ne sais pas. Regardez, on fait des affaires, on est en train de travailler, on est en train de faire plein de choses. Moi, la seule chose qui compte, c'est que je respecte les lois. Donc, cette loi-là, on va la respecter. Vous en pensez quoi? Elle me dit, OK, je prends le challenge. Elle a passé l'après-midi, elle a réussi à avoir la signature, le salaire est parti le jour même. Et elle a dit, merci mon Dieu, on a réussi. Ce genre de choses. Donc ça, c'est la rigueur qu'on doit avoir effectivement dans notre vie professionnelle. Et là, je finis dans 2 minutes. Je vais vous donner une dernière Gemara qui est dans la Maseret Nida. D'accord? C'est une Gemara que je répète souvent parce qu'elle est magnifique. Il existe un ange qui est... On dit Otomalach Memouné à l'Aérayon, Laïla Shemo. Donc il existe un ange qui est dédié aux accouchements, aux grossesses, et son nom s'appelle Laïla. Ok. Il amène une goutte devant Dieu et il dit à Dieu, Ribono Shalolam, Tipazo Mate Alea, maître du monde, et cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors il pose trois questions. Gibor Chalash, est-ce qu'elle va être forte ou faible? Chacham Otipesh, est-ce qu'elle va être intelligente ou bête? Ashir Ohani, est-ce qu'elle va être riche ou pauvre? Alors la Gemara demande, ah mais il manque une question. Velu Racha Otsadik, il va pas demander s'il est Racha Otsadik. Lo, Kamar Gede Rabbi Chanina, Damar Rabbi Chanina, Akol Bide Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire, que l'ensemble des résultats de notre vie, notre richesse, même notre intelligence, même si ça doit s'entraîner bien sûr, notre musculature, tout ça vient du ciel. La seule chose que nous avons à faire sur cette terre, c'est de choisir entre le bien et le mal. Entre ce qui est permis par le judaïsme, permis, enfin, le terme que j'aime utiliser, c'est pas le mot permis, c'est recommandé. Parce que le judaïsme est là pour nous aider, d'accord ? Il est en train de nous donner quelque chose, pas en train de nous bloquer. Donc ce qui est recommandé par le judaïsme, et, ou alors, l'autre chemin. C'est la seule chose qu'on a à faire dans notre vie. Aller là ou aller là. On a donc, moi, l'image que je donne toujours, c'est qu'en fait, on est comme dans un jeu vidéo. On est dans un jeu vidéo où on a plein de niveaux, d'accord ? Donc on passe un niveau, donc imaginez Mario Bros, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui jouent à Mario, d'accord ? Donc vous avez Mario, vous avez le premier niveau qui est un niveau plutôt simple, d'accord ? Il y a deux, trois petits monstres, etc. Et donc on va vaincre ce truc. Donc pendant ce niveau-là, dans notre vie, on va devoir prendre un bon choix. Par exemple, je vais m'acheter une maison, je vais acheter à côté d'une synagogue. Je vous dis, c'est une chose simple, mais c'est quelque chose de très, très complexe aussi. C'est un sujet très complexe. Et au fur et à mesure de notre vie, je vais me retrouver avec plein de petits jeux. Donc imaginez votre journée avec agrémentée de plein de petites épreuves. Par exemple, juste avant que vous allez rentrer chez votre client, d'accord, pour aller lui vendre un produit, vous allez vous dire dans votre tête que Dieu me protège et me permette de vendre ça de la manière la plus honnête qui soit. D'accord ? Je vais faire ça et je vais arriver. Et quand je vais ressortir, ma fierté, ça ne sera pas est-ce que j'ai signé le contrat ou je n'ai pas signé le contrat ? Ça sera est-ce que je suis resté 100% droit ou pas ? Si on vit comme ça, on a une réussite qui apparaît dans tous les domaines. C'est quelque chose qui est absolument dingue. Moi, j'ai vécu comme ça pendant plein de temps. Je vis avec des gens qui vivent comme ça. Vous savez, on parle du monde orthodoxe qui est censé être le monde le plus pauvre d'Israël. Jamais vu autant de riches, d'accord, de gens qui ont fait des œuvres, qui font des affaires avec une honnêteté absolument fabuleuse, et qui en fait, leur question de tous les jours, c'est « Attends, je vais faire ça, est-ce que je le prends bien de ce côté ? Est-ce que j'ai le droit de dire ce mot ? Est-ce que j'ai le droit de vendre ce produit ? Est-ce que j'ai le droit de l'importer de tel pays où je sais que les gens se font si ?» Donc voilà, je souhaite à tous un bon jeu. Pendant toute cette vie où on a effectivement à la fois à l'école, pendant nos études, à la fois effectivement pendant notre vie professionnelle, pendant notre vie de couple, pendant notre relation avec nos enfants, on a toutes ces petites épreuves qui font justement là, à ce moment-là qu'on va effectivement pouvoir exprimer son judaïsme. Et ne pas penser effectivement, comme j'ai expliqué, à limiter ce judaïsme à un point quelconque. Merci à tous.
Alors, pour les questions. Merci, Jeanne, c'est super intéressant. Moi, j'ai trois questions. La première, c'est succès versus antisémitisme. Moi, je bosse dans le high-tech et souvent, j'ai vu des juifs en fait, qui sont très en succès et qui déclenchent des réactions antisémites. Donc, comment faire
des juifs.
Très antisémites, des juifs en succès sur des gros deals.
Ouais.
Comment veiller en fait à permettre le succès sans déclencher de l'antisémitisme, donc rester dans cette notion de Kiddush Hashem, c'est ma première question. La deuxième question, c'était par rapport à la Gemara que tu évoquais quand tu dis Akavat Haetim la Torah. Mais ce que j'ai compris, c'est que le judaïsme, en tout cas la manière de pratiquer, elle est omniprésente dans tout, partout. Donc du coup, à quoi bon cette question Akavat Haetim la Torah si ou Nasa Be'emuna ? Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a plus de judaïsme, on dirait, est-ce qu'il y a plus de capacité ou plus de légitimité à vivre un judaïsme juif très intense en Israël par rapport à l'extérieur d'Israël, étant donné que Israël justement concentre l'illustration que tu dis en tant que juif. Voilà mes trois questions.
Ok. Donc on va parler de la première question sur l'antisémitisme et comment faire du Kiddush Hashem en réussissant. D'accord. Très important en fait de montrer que notre judaïsme n'est pas là pour nous amener des avantages, d'accord ? Si nos collègues voient notre judaïsme en disant ce sont ceux qui vont partir plus tôt le vendredi, ce sont ceux qui vont prendre plus de jours pendant les fêtes, etc., etc., ou qui vont avoir plus de copains, plus de réseaux, etc., uniquement, Effectivement, à ce moment-là, ils vont se dire, ils ont un truc en plus, et donc je suis jaloux. Logique, c'est pas l'antisémitisme, c'est de la jalousie. On a la même jalousie entre frères et sœurs, d'accord? Par contre, si ces gens-là voient que ce judaïsme resplendit dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, que ces commerciaux-là qui sont en train d'avoir du succès, ils sont en train d'amener des valeurs à l'entreprise, qui font que quand les non-juifs ou les juifs non pratiquants se lèvent le matin, se disent Ah, je vais au travail et je vais faire quelque chose de mieux qu'avant, à ce moment-là, c'est de l'affection qu'on a, que les gens ont. Bon, mon expérience a été en permanence ça. Et une expérience que je n'ai pas dit, je l'ai dit très très vite. Il y a eu un moment, j'ai eu des nouveaux bureaux à Paris quand j'avais 20, 21 ans. Et on devait poser des mezouzot. Donc on a posé les mezouzot le soir, on est rentré dans les bureaux. Et le soir, le premier soir, on a posé des mezouzot. Le lendemain, les gens arrivent. Et les goyim arrivent, plusieurs non-juifs arrivent. Et effectivement, on voit les mezouzot en disant « Ah, c'est super et tout, il paraît que ça porte bonheur. » Et moi, j'avais une directrice financière à l'époque, elle me dit « Ah, il paraît que c'est comme ça porte bonheur. » Alors, je lui dis « Comme ça, on fait ?» Elle me dit « Comme ça, on fait ?» Je fais « Oui, c'est ça, exactement. » Alors, à chaque fois, le matin, à l'arrivée, elle embrassait la mezouza. Il y a eu une personne qui s'est plaint dans l'entreprise. C'était mon directeur technique. Il arrivait, il disait « Déjà, nos bureaux sont rue du Sentier. En plus, tu mets des bâtons énormes. T'exagères pas un peu ?» Et il commence à avoir une confrontation avec moi, etc. Je lui dis « Regarde, regarde. » Laisse tomber, parce qu'on a. C'est comme ça et c'est tout. Il s'en va. Il s'est avéré que cette personne-là, effectivement, a escroqué un peu la société, a fait des choses complètement illégales à côté. Quelques mois plus tard, un jour, on m'appelle en me disant, Bon, Jérémy, voilà ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer avec cette personne. Et deux, ce monsieur Royer ne s'appelle pas Royer, il s'appelle Rosenberg. C'est-à-dire que la seule personne qui s'était plainte du judaïsme qui resplendissait dans cette entreprise, c'était un juif. Donc, très, très souvent, c'est le juif eux-mêmes qui sont soit complexés, soit qui n'amènent pas assez de valeur, effectivement, à l'autre, à son entourage. Ça, c'est mon expérience. Peut-être d'autres ont d'autres expériences, mais moi, tout ce que j'ai lu et toutes les expériences que j'ai lues de gens aux États-Unis, etc., qui vivent qui travaillent comme ça, ont toujours eu les mêmes choses. La deuxième question, c'était sur. Alors, Kavata etim la Torah, ça veut dire étudier. Ça ne veut pas dire vivre sa Torah. D'accord? Donc, ça répond. C'est un moment, on doit s'asseoir avec un livre, on doit être au Beit HaMidrash, etc. Hommes et femmes, attention, je précise, hein, parce que beaucoup de femmes essaient des fois de dire c'est pas pour nous. Non, non, c'est pour tout le monde. D'accord? 100% des juifs. On doit étudier et fixer des moments d'études. La troisième chose, c'est Israël. Israël est un pays très compliqué. Je vais vous dire, très compliqué. Et moi, je vais dire, Baruch HaShem, je réussis en Israël parce que je suis arrivé en sachant que c'était très compliqué. Je suis arrivé en disant que ça allait être beaucoup plus dur qu'en France. Donc, je suis arrivé à Ranana, j'ai habité à Ranana pendant les premières années. D'accord? Il y a eu des problèmes. Alors, on a trouvé des ganim, mais il y avait des problèmes de pudeur dans les rues. Il y avait des problèmes. Il y avait plein de choses. Il y avait plein de problèmes. On vit à Bnei Brak, d'accord? On a effectivement, il y a des problèmes, des confrontations qu'il peut y avoir entre, effectivement, les gens qui reprochent aux gens de Bnei Brak de ne pas faire l'armée, des choses comme ça, etc. Je veux dire, Israël, ce n'est pas un lieu où on exprime mieux son judaïsme. Par contre, on est dans la capitale. C'est-à-dire que tout, en fait, qui arrive en Israël se fait en puissance 100. C'est-à-dire que n'importe quel événement va faire la une. Et je vais même dire une expérience, c'est que je n'ai jamais été traité de sale juif en Israël. Jamais. Alors, en France, je veux dire, en France. En arrivant en Israël, on est arrivé la première semaine. Ma femme avait la tête couverte, elle avait un foulard. On est arrivé dans un ascenseur. Un Israélien l'a repoussé à l'extérieur, lui a dit « Tu es une datia, on ne veut pas de toi ici. » Ça s'est passé en Israël. C'est passé à Natania. Donc, il faut juste savoir. Moi, je ne suis pas là pour cracher en Israël. C'est là où je fais ma vie. C'est là où mes enfants vont grandir, etc. etc. Mais quand on sait que ce n'est pas le paradis encore, et qu'on a là-bas, on doit aussi exprimer son judaïsme. Je veux dire, par exemple, avec les Israéliens, les Israéliens non religieux, je ne parle jamais de judaïsme. J'arrive comme ça en rendez-vous. Et à chaque fois, ce sont eux qui m'en parlent. Tu sais, Jérémy, je mets mes tefilines. Tu sais, mon grand-père était rabbin. Tu sais, je fais Netilat le matin. Tu sais, si. Quoi? Le mec est crâne rasé, la boucle d'oreille, le truc, le tatouage là, etc. C'est eux qui viennent vers moi. Donc on a le même rôle à accomplir de Kiddush Hashem, effectivement, aussi en Israël.
Merci. Est-ce qu'il y a une prochaine question? Et que ce soit une question ou pas question.
premier discours, vous avez parlé de l'interdiction de tricher absolument, ce qui se conçoit très bien dans le judaïsme. Mais bon, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un peu de l'angélisme? Parce que, d'après ce que je sais par mon expérience, le monde de l'entreprise n'est pas un monde de bisounours. Et il peut y avoir des coups bas qui nous sont portés, etc. Est-ce que le judaïsme dit que quand on nous donne une gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche, etc. Quand on vit avec des juifs, c'est autre chose. Mais quand on est dans une entreprise en France, on sait vraiment ce qui se passe. Plus généralement, indépendamment des problèmes internes, dans les problèmes externes, on sait très bien qu'il y a des professions où on est obligé de donner des pots de vin pour avoir des contrats. Qu'est-ce qu'on pense du judaïsme?
C'est une super question. Ça fait deux questions, ça. Attention. Alors, on est dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de bisounours. Je suis 100% d'accord. Yaakov n'était pas dans un monde de bisounours. D'accord? Yaakov a utilisé des moyens honnêtes, 100% honnêtes et 100% en accord avec son contrat pour réussir à s'enrichir. 100% correspondant à son contrat. Pardon?
Et ça marche en France.
Et ça marche partout. Ça marche partout. Je vais vous dire, j'ai vu des gens autour de moi, des gens qui réussissaient, et qui me disent, Jérémy, fais quelque chose. Ne laisse pas dire que le monde n'est pas que le monde des affaires n'est pas un monde des bisounours, justement. Que le monde du business est sans foi ni loi. Ne laisse pas dire ça, parce que ce n'est pas vrai. Effectivement, c'est dur. Il y a plein de gens qui peuvent faire des bêtises. De temps en temps, on va se faire prendre un coup dans le dos, etc. Il y a certaines industries où, effectivement, ça va être beaucoup plus dur que d'autres. D'accord? Alors, soit on s'éloigne de cette industrie, soit on se dit, le challenge est encore plus haut. D'accord? Mais non, on ne peut pas faire Yehush. On ne peut pas se dire que comment on dit Yehush en français ? Abandon. On peut pas perdre espoir de se dire on ne peut pas réussir. Parce que c'est ça notre mission sur Terre. Alors on va dire, ah oui, mais t'es un idéaliste. Je dis, ouais, c'est comme ça. On est idéaliste. Il faut bien qu'on serve à quelque chose, les juifs ici. On n'est pas là que pour faire taper dessus. Quitte à se faire évoluer où ?
Quitte à ne pas évoluer dans l'entreprise.
Dans l'entreprise ? Ah, mais. Moi, je pense que la meilleure évolution et la meilleure satisfaction, c'est de rester la personne la plus droite qui soit. Après, on doit monter, on ne doit pas monter, ça c'est Dieu qui nous met là. Dieu, il a bien mis Trump président des États-Unis. Quand même. Bon, alors c'était bon, il était riche, etc., mais quand même. Donc, n'importe qui peut monter, peut descendre, etc. Il y a des gens très intelligents qui restent en bas, il y a des gens très voleurs qui restent en bas, etc. C'est pas dépendant tout ça. Pas dépendant tout ça. Si on a la Emouna, que Dieu finalement, les résultats vont être entraînés par Dieu, mais que nous, la seule chose qu'on a à décider, c'est de le faire bien ou de le faire mal, à partir de ce moment-là, effectivement, on réussit notre mission ou pas.
Sur la deuxième question.
J'ai pas la réponse. Sur le shochad, sur le donner des pots de vin pour obtenir un contrat, j'ai pas la réponse.
Merci beaucoup.
Mais c'est une super question. Enfin, c'est une question, elle est dans ma liste de sujets à traiter.
Merci beaucoup. Monsieur Berryby sera là pendant. Le buffet pour répondre à d'autres questions sur un buffet. Pour clôturer cette première partie, je vais demander au Raphaël Nissambom, porteur du bateau Haïti, d'intervenir quelques minutes à ce sujet.
D'abord, en votre nom à tous, mes remerciements à Jérémy. Puis c'est pour moi d'abord un grand plaisir, et je le dis devant tout le monde, de le revoir au bout de 20 ans.
15 ans.
Juste quelques mots de conclusion et vraiment pas très long. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une chose très importante qui a été dite par les uns et les autres, et notamment par ce qu'on vient d'entendre. Vous savez qu'il y a un grand principe dans le judaïsme qui était sous-jacent dans toute cette rencontre et qui est d'ailleurs sous-jacent dans nos vies respectives, qui est... connais Dieu dans tous tes chemins. Alors effectivement, comme on vient de le dire, on pourrait croire, mais je ne voudrais pas paraphraser ce qu'on vient d'entendre, on pourrait croire que le judaïsme, c'est la plus petite partie de la vie, en réalité. C'est les moments privilégiés où je fais une mitzvah, je mets les tefillin, j'étudie la Torah. C'est les moments privilégiés où je m'attache à Dieu. Ce qui veut dire que finalement, il est réduit à la plus petite portion du jour, juste les quelques minutes qui me sont nécessaires chaque jour à accomplir les rites obligatoires du judaïsme. Alors si je mets les choses au... si je noircis, je noircis la situation, je dirais finalement que dans ce cas-là, je suis juif, allez, soyons larges, 2 heures par jour. Mais il reste 22 heures dans la journée. Que fait-on de ces 22 heures? Ces 22 heures où je ne suis pas occupé, alors je n'étudie pas de 4h30 à midi. Que reste-t-il des 22 heures? Eh bien, ces 22 heures où je ne suis pas occupé à un acte particulier, à un acte codifié, à un acte spécifiquement juif. Ces 22 heures-là, eh bien, c'est tout le judaïsme en réalité. C'est toute la vie juive. C'est connaître Dieu dans tous nos chemins, quoi que nous fassions. C'est-à-dire, oui, bien sûr, dans les moments privilégiés que sont la prière, l'étude, la pratique, etc. Mais aussi, dans ma vie professionnelle, quelle qu'elle soit, quoi qu'on fasse dans la vie professionnelle, et puis dans ma vie estudiantine, et puis pas seulement, mais en quoi suis-je juif, par exemple, quand je marche dans la rue? En quoi suis-je juif quand je pousse mon caddie au supermarché? Ou bien quand je vais dormir? Ou bien quand je mange? Je ne parle pas de manger cachère, je parle de l'acte naturel nécessaire de manger. En quoi suis-je juif? Ça, c'est le Bechol Drachadeo. C'est connaître Dieu dans tous ses chemins parce qu'il y a une manière juive et de travailler dans le monde profane. Une manière juive de faire des études, une manière juive de marcher dans la rue, de dormir ou de manger, en dehors de tout le reste. Eh bien, ici, vous tous et nous tous, nous devons être, nous sommes un exemple de ce Bechol Drachadeo. En vérité, c'est un vrai choix de chaque seconde. Votre présence ici, il faut, et si je remercie Jérémy, je dois vous remercier aussi, d'être venu aujourd'hui, puisque votre présence ici, c'est aussi une expression de ce Bechol Drachadeo. C'est aussi une expression de la manière de connaître Dieu dans tous nos chemins, quoi que nous fassions. Alors, c'est s'il faut une parole de conclusion, vous savez, c'est le genre de choses qu'on ne conclut jamais. Mais s'il faut une parole de conclusion, ce sera peut-être celle-là. C'est que connaître Dieu dans tous ses chemins, finalement, c'est une découverte de chaque instant. Autant les commandements sont codifiés, nous le savons tous. Il y a des normes extrêmement précises auxquelles nous sommes conduits à nous conformer avec beaucoup de scrupules et d'exactitude. Autant tout le reste n'est pas codifié. C'est une attitude morale, même s'il y a beaucoup de lois, bien sûr, qui l'encadrent. Mais c'est une attitude à la fois morale, spirituelle, intellectuelle et sociale. Et bien, nous tous qui avons fait le choix, vous savez que dans le judaïsme on distingue 2 grandes catégories, nous disent nos textes. On distingue ceux qu'on appelle les Yoshvei Oel, ceux qui résident dans la tente, comme Yaakov. Alors aujourd'hui on peut dire qu'ils étudient la Torah, qui se consacrent à la Torah toute leur vie, c'est une activité extrêmement noble et précieuse. Et puis il y a ceux qu'on appelle les Baalei Asakim, ceux qui choisissent une occupation professionnelle. Nous constatons tous que la majeure partie du peuple juif a choisi plutôt la deuxième catégorie que la première. Eh bien, ne croyons pas que cela donne le droit à quiconque de délaisser quoi que ce soit. Ceux qui ont choisi l'occupation professionnelle doivent le voir comme un choix de vie, un choix de Bechol Drachadeo, de connaître Dieu dans tous nos chemins. C'est ce que nous avons tous fait. Eh bien, alors il faut souhaiter que nous continuions ce chemin qui, comme on l'a dit, est un chemin de découverte, et puisse ce chemin de découverte nous amener vers un nouveau monde, le plus beau de tous. Merci à tous.